Bonjour et bienvenue dans votre journal avec un tour d'horizon des événements les plus marquants en Afrique et dans le reste du monde. À la présentation, Nanit Talani. Ce matin, nous reviendrons sur la RDC où des attaques contre les ambassades ont incité les États-Unis à exhorter leurs ressortissants à quitter le pays. Washington est profondément troublé par l'escalade du conflit en cours dans l'est de la RDC, a affirmé le secrétaire d'État américain lors d'un entretien avec le président rwandais Paul Kagame. Manifestation de soutien au retrait de la CEDEAO au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans notre section magazine avec une interview de l'analyste Paul Oula.
Un ouf de soulagement pour les populations.
Israël annonce la cessation des relations avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. En économie, le sommet africain de l'énergie qui vise l'électrification de 300 millions de personnes d'ici 2029. Et puis bien sûr, notre incontournable rendez-vous sportif, mais d'abord les nouvelles. Les États-Unis ont appelé hier leurs ressortissants à quitter la République démocratique du Congo après que leur ambassade et plusieurs autres représentations étrangères à Kinshasa ont été prises pour cible par des manifestants. Yakuba Ouedraogo pour les détails.
En raison d'une augmentation de la violence dans la ville de Kinshasa, l'ambassade des États-Unis recommande aux citoyens américains de se mettre à l'abri sur place et partir en sécurité. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade des États-Unis en RDC dans un message publié sur son site Internet, soulignant que les vols commerciaux au départ de l'aéroport Njili de Kinshasa sont encore ouverts. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, elle, a qualifié d'inacceptable les attaques visant plusieurs ambassades en RDC. La violence à Kinshasa est profondément troublante, a dénoncé Kaja Kala sur X, appelant à ce que la protection des populations civiles et du personnel diplomatique soit garantie. À Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, accusée par les autorités congolaises de leur avoir déclaré la guerre, du Kenya, de la France, de la Belgique et des États-Unis, critiquées pour leur inaction dans cette crise. Le Kenya a convoqué ce mercredi une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame.
Justement, le président congolais Félix Tshisekedi doit rencontrer aujourd'hui son homologue rwandais Paul Kagame lors d'un sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est organisé par le Kenya. Cette rencontre convoquée par le Kenya doit tenter de dénouer la nouvelle crise dans la région frontalière de l'Est congolais. Pendant ce temps, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent l'aéroport et occupent désormais la quasi-totalité du centre du Ghana et des faubourgs. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu hier avec le président rwandais Paul Kagame. Il a souligné que les États-Unis sont profondément troublés par l'escalade du conflit en cours dans l'est de la RDC, en particulier par la chute de Goma aux mains du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le secrétaire d'État a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la région et a demandé à toutes les parties de respecter les intégrité territoriale souveraine. Marco Rubio a fait savoir que l'objectif primordial des États-Unis était d'instaurer une paix durable qui réponde aux préoccupations en matière de sécurité et jette les bases d'une économie régionale prospère. Le président rwandais Paul Kagame a salué ce matin une conversation productive avec Marco Rubio sur la nécessité d'assurer un cessez-le-feu et de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. Des milliers de personnes ont manifesté mardi au Niger, au Burkina Faso et au Mali pour soutenir le retrait de leur pays de l'organisation ouest-africaine CEDEAO qui devient effectif aujourd'hui. Rosine Munezero nous en dit plus.
À Niamey, plusieurs milliers de manifestants, avec en tête des membres du régime militaire, ont défilé dans le centre-ville. À Ouagadougou, même constat, des milliers de manifestants se sont rassemblés à la place de la Nation, dont le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et des membres du gouvernement. Et enfin, au Mali, un rassemblement se tenait dans l'après-midi à Kouroukan-Fouga, près de Bamako, un lieu emblématique du patrimoine du pays. Aujourd'hui, 28 janvier 2025, c'est terminé. Que plus personne ne nous parle de la CEDEAO, a déclaré le colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du chef des militaires nigériens au pouvoir, le général Abdourahmane Tchiani. La CEDEAO a tourné le dos aux idéaux de ses pères fondateurs et au panafricanisme, a déclaré à la tribune l'un des organisateurs au Mali, Samou Samuel Kone, ajoutant que l'organisation était devenue une entrave au développement de ses États membres. Ces trois pays vont émettre dès aujourd'hui, mercredi, leur propre passeport commun, sans remettre en cause dans l'immédiat la libre circulation dans la région. Ils ont également annoncé la constitution prochaine d'une armée unifiée de 5000 hommes pour combattre les djihadistes.
Le président Paul Biya a reçu hier mardi à Yaoundé le rapport d'une commission de chercheurs français et camerounais sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Davantage avec Eric Manirakiza.
Au cours d'une cérémonie de restitution du rapport au palais présidentiel de Yaoundé, le président Paul Biya a salué le travail de la commission qualifiant de thérapie collective et soulignant sa portée symbolique pour établir la vérité historique. Monsieur Biya a précisé que l'objectif était de briser un tabou de longue date, permettant ainsi une nouvelle dynamique dans les relations entre la France et le Cameroun. Ceci amènera les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations, considère le président Biya. Ce rapport scientifique fournit une analyse historique et historiographique du rôle de la France au Cameroun sur la période de 1945 à 1971, décrit Karine Ramondi, historienne et coprésidente de la commission mixte franco-camerounaise à l'origine du document. La restitution a eu lieu en présence d'une délégation française amenée par le ministre délégué français chargé de la francophonie, Tani Mohamed Soilihi. Mardi dernier, lors d'une première cérémonie de remise du rapport au palais de l'Élysée à Paris, le président Emmanuel Macron a salué le travail scientifique mené par les chercheurs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël va cesser tout contact avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à partir du 30 janvier. Une décision plutôt soutenue par les États-Unis, mais qui, pour l'ONU, met en danger l'avenir des Palestiniens. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
J'informe par la présente les Nations Unies et le Conseil de sécurité que la législation concernant les activités de l'UNRWA en Israël entrera officiellement en vigueur dans 48 heures le 30 janvier, comme décidé par le Parlement en octobre, a déclaré Danny Danon, représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, devant la presse avant une réunion du Conseil de sécurité sur la question. Danny Danon a d'autre part annoncé qu'Israël mettait fin à toute collaboration, communication et contact avec l'UNRWA et quiconque agissant en son nom, alors que certains ont évoqué la possibilité que des États membres ou d'autres agences servent d'intermédiaire entre l'UNRWA et les autorités israéliennes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y a répondu en regrettant cette décision et demandant que le gouvernement d'Israël la retire. Cette demande unilatérale de cesser les opérations et d'évacuer les installations avec une mise en demeure de moins d'une semaine est manifestement déraisonnable et contradictoire avec les obligations internationales d'Israël, a-t-il écrit dans ce courrier daté de lundi. Il y souligne qu'Israël ne peut exercer de pouvoir de souveraineté sur aucune partie du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Les États-Unis soutiennent la mise en œuvre de la législation israélienne visant l'UNRWA, a déclaré mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU par intérim devant le Conseil de sécurité, décrivant une exagération des impacts de ces lois.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a élargi les exemptions au gel de l'aide étrangère des États-Unis en assurant que des aides d'urgence telles que les médicaments et des abris continueraient d'être financées. Ce gel, ordonné par le président Donald Trump pour réévaluer l'aide étrangère, exclut désormais certaines formes d'aide humanitaire, en plus de l'aide alimentaire d'urgence, répondant aux préoccupations soulevées par les organisations humanitaires. Cependant, le gel affecte des projets humanitaires, notamment en Ukraine. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a annoncé que son pays poursuivra indéfiniment son programme nucléaire, affirmant que 2025 serait une année cruciale pour renforcer ses forces nucléaires.
Voilà pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. maintenant notre rendez-vous économique avec Rosine Mounezero.
Au Cameroun, la douane dépasse pour la deuxième année consécutive la barre des 1 000 milliards de francs CFA de recettes, mais ne réussit pas à atteindre les objectifs annuels fixés. Les performances enregistrées entrent dans le cadre de sa stratégie visant à augmenter les recettes non pétrolières dans le budget de l'État, indique l'agence Ecofin. Pour 2025, la Direction générale des douanes vise un objectif d'une augmentation de 49,4 milliards de francs CFA, soit plus de 4,5% par rapport aux prévisions de 2024. Les dirigeants africains et les donateurs se sont engagés mardi à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes supplémentaires en 5 ans, en s'appuyant sur les progrès considérables réalisés dans le domaine de la technologie solaire hors réseau pour atteindre cet objectif. Ils se réunissent depuis lundi en Tanzanie à l'occasion du sommet africain de l'énergie organisé conjointement par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le nouvel exécutif américain entend suspendre le versement de milliards de dollars d'aide publique allant des bourses d'études auprès aux petites entreprises pour s'assurer qu'elles sont conformes aux priorités présidentielles. L'État fédéral a déboursé l'an dernier plus de 3 000 milliards de dollars en matière d'assistance financière, ce qui inclut bourses, prêts, aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle, autant de dépenses approuvées par le Congrès.
À présent, découvrons les dernières actualités sportives avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Pour commencer, Lookman Ademola, absent pendant 3 semaines.
Oui, l'Atalanta Bergame sera privé de son buteur nigérien qui s'est blessé au genou droit pendant 3 semaines selon l'annonce faite par le club de Serie A, ajoutant que la durée prévisible de son indisponibilité est d'environ 3 semaines. Lookman Ademola, auteur d'un triplé en finale de la dernière Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, va ainsi manquer le déplacement à Barcelone dans le cadre de la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Il va aussi rater au moins les 3 prochaines journées du championnat avec des matchs contre le Torino à Vérone et contre Cagliari, sans oublier le quart de finale de la Coupe d'Italie le 4 février contre Bologne. Lookman Ademola, 27 ans, a inscrit 14 buts cette saison et réalisé 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'Atalanta, 3e du championnat d'Italie à 7 points du leader Naples, occupe la 7e place au classement de la Ligue des Champions et se qualifiera directement pour les 8e de finale en cas de succès sur le terrain du Barça, déjà qualifié lui pour ses 8e.
Justement, la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se joue ce soir.
Manchester City de la nouvelle recrue, l'Égyptien Omar Marmoush, actuellement inéligible avec City en Ligue des Champions, joue son avenir sur un seul match contre Bruges, un quitte ou double qui met une grosse pression sur Pep Guardiola. Autre ordre européen un peu en difficulté, le Real Madrid assuré de disputer les barrages, mais avec peu de chances d'atteindre le top 8 qui qualifie directement pour les 8e de finale. Adversaire de Brest pour cette dernière journée de la première phase, le Real s'améliore mais n'a pas encore montré son meilleur visage, a estimé son entraîneur Carlo Ancelotti. De son côté, Monaco peut faire pencher sa saison du bon côté à Milan contre l'Inter, où une victoire pourrait lui offrir l'accès direct aux 8e de finale. Les Monégas connaissent cependant un coup dur. Leur meilleur défenseur, l'Ivoirien Wilfried Singo, auteur de 2 buts en Ligue des Champions cette saison, est forfait. Touché aux ischio-jambiers, il sera sur le flanc entre 3 et 5 semaines.
Pour le président de Santos, pour Neymar, le moment est venu de rentrer.
Dans une vidéo sur Instagram, Marcelo Teixeira s'est adressé au meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, 32 ans, 79 buts en 127 matchs, qui a fait ses débuts à Santos en 2009. Le moment est venu pour toi de retourner auprès de ton peuple chez toi dans notre club de cœur. C'est ce qu'a déclaré le président du club brésilien de Santos sans officialiser le retour dans son club formateur de la star brésilienne après la résiliation de son contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal. Neymar avait rejoint Al-Hilal en août 2023 pour quelques 100 millions d'euros par saison après 6 années sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais sa rupture du ligament croisé du genou gauche lors d'un match avec le Brésil 2 mois après son arrivée à Riyad l'a tenu écarté des terrains pendant 1 an. Neymar n'a disputé que 7 matchs avec Al-Hilal pour 1 but et 3 passes décisives.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours avec vous, à présent les dossiers du jour de cette édition. Les combats violents à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait plusieurs morts et blessés. Le CICR s'inquiète de la situation humanitaire, en particulier du nombre croissant de blessés qu'il soutient dans ses structures, comme à l'hôpital CBC Yandosho. Pour comprendre l'ampleur de la crise, notamment la situation humanitaire à Goma, Eddie Isango a contacté à Dakar au Sénégal et Léonore Assoumani, responsable des relations publiques du CICR pour l'Afrique francophone.
La situation humanitaire actuellement à Goma est plutôt dévastatrice. Nous avons des équipes qui travaillent et qui soutiennent l'hôpital CBCA Endosho Goma, où nous avons des équipes de chirurgiens qui travaillent nuit au jour et qui accueillent des blessés, souvent des blessés par balle, des blessés par explosion. Depuis le début de l'année, donc depuis début janvier, donc ça fait 3 semaines seulement, nous avons reçu plus de 720 blessés dans cet hôpital-là et avec seulement déjà 148 blessés pour la journée d'hier seulement.
Comment faites-vous votre travail aujourd'hui? Est-ce que la sécurité vous permet de surquiller? Il semble qu'il y a beaucoup de corps sur les rues encore. Est-ce que c'est facile pour vous, avec des combats actuels, d'aller apporter les secours ou l'assistance aux personnes?
On a encore, en effet, donc la situation a été très compliquée, notamment les jours passés avec des combats intense dans le milieu urbain. Nos équipes à l'hôpital ont pu continuer à travailler, les blessés ont continué à effluer. Le reste des équipes qui ne sont pas des équipes médicales, elles étaient à l'abri dans nos bureaux où nous avons aussi un abri qui nous protège des tirs. Comme tout le monde, ils sont restés pour les autres à la maison. La situation n'est pas simple. Vous avez mentionné en effet le fait que la ville soit dans les combats. Ça fait que par exemple un de nos collègues a reçu un obus dans sa parcelle. Nous-mêmes, encore hier, on a aussi eu quelques tirs très très près de notre bureau. Mais on arrive quand même à continuer à travailler. Depuis quelques heures, il y a une accalmie et on profite de ça pour pouvoir se déplacer. On voit que les gens petit à petit sont en train de sortir timidement pour essayer de trouver un peu de nourriture, un petit peu de gaz, un peu d'eau potable pour pouvoir se réapprovisionner en cas. On a vu certaines boutiques trouver petit à petit aussi quelque chose à manger et l'équipe en ont aussi profité pour faire de même et pour continuer à donner l'assistance humanitaire qui est nécessaire.
Un des véhicules de la MONUC avait été pris à part par des bombes. C'est justement pour cette raison qu'on demande comment vous faites votre travail. Est-ce que vous êtes sécurisé par la MONUSCO ou par les soldats, je ne sais pas, de l'armée, maintenant que l'armée congolaise n'est pas là?
En tant qu'organisation humanitaire et par notre mandat, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a dans son mandat ce dialogue avec les parties au conflit. Et ça fait partie de notre travail d'être en dialogue constant avec toutes les parties au conflit. C'est ce qui nous permet de continuer à faire notre travail de manière sécurisée.
Qu'en est-il des camps de déplacés? Parce qu'il y avait déjà des millions de déplacés dans et autour de Goma.
On a en effet entendu qu'il y a eu des déplacements massifs et en effet les gens essaient de prendre abri et de se réfugier là où ils peuvent, là où ils trouvent.
Éléonore Assoumani, responsable des relations publiques du CICR pour l'Afrique francophone.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend effet aujourd'hui après un an de tensions politiques. Le 29 janvier 2024, les trois pays dirigés par des régimes militaires avaient notifié à la CEDEAO leur volonté de retrait immédiat. Mais les textes de l'organisation ouest-africaine imposaient un délai d'un an pour qu'elle soit effective. C'est donc chose faite ce mercredi, les trois pays qui constituent l'AES ayant ignoré l'appel de la CEDEAO à prolonger la période de 6 mois pour tenter de trouver une solution. Yacouba Ouédraogo a joint à Bamako au Mali l'analyste Paul Oula.
un ouf de soulagement pour les populations. Aujourd'hui, quand on essaie de voir, au niveau même de l'AES, on remarque qu'il y a quand même un front social qui se lève contre la CEDEAO et les différentes sanctions que la CEDEAO a eu à infliger contre ces États. Et aujourd'hui, la sortie des pays membres de l'AES dans la CEDEAO est considérée quand même par une frange partie de la population comme un ouf de soulagement, comme une bouffée d'oxygène. Mais quand on essaie d'analyser aussi d'un autre côté, on remarque que ceux qui sont au niveau de la diaspora sont quand même animés par un sentiment d'inquiétude dans la mesure où beaucoup sont en train d'espérer que dans les jours à venir, que la CEDEAO peut quand même frapper ces étrangers-là. Je pense que c'est un enjeu qui est à l'autre.
Parlant des conséquences de cette sortie, ces trois pays se sont dit prêts à négocier avec la CEDEAO qui avait donné 6 mois pour qu'ils revoient peut-être leur position. À quoi faut-il s'attendre pour la suite?
Alors, moi, je pense que la négociation va se dérouler au niveau seulement de la mobilité des ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO et vice-versa aussi. Parce que si on essaie de voir l'AES en tant qu'entité géographique, sinon en tant qu'entité politique, elle ne saurait quand même se dépasser de l'espace CEDEAO parce que ces deux espaces sont liés par l'histoire et la géographie aujourd'hui. Il est quand même utopique de penser qu'on puisse occulter cette question de mobilité des citoyens dans ces deux espaces. Je pense que l'enjeu majeur va se dérouler autour de la mobilité des citoyens dans cet espace.
Le motif majeur qui a conduit à la prise de pouvoir par les militaires dans les trois pays, Burkina, Mali, Niger, c'est la situation sécuritaire qui n'est pas intéressante. En quoi cette sortie de la CEDEAO pourrait aider dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel?
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des pays membres de l'AES se sont retirés, même de la CEDEAO, en dehors même des sanctions qui ont été infligées par la CEDEAO. Le point principal à analyser, c'est que ces trois pays, aujourd'hui, jouissent quand même d'une autonomie de décision, surtout en termes de gestion sécuritaire. Parce que si on essaie de voir avec la mise en place d'une force conjointe aujourd'hui, cela veut dire que ces trois pays sont dotés d'une force conjointe, avec un commandement, avec doté de toutes sortes de capacités opérationnelles pour mettre en état de nuire les groupes armés terroristes. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les pays membres de l'AES ne sont plus tutelle sécuritaire. C'est une opportunité pour eux vraiment de lutter contre l'insécurité.
L'analyste Paul Oula joint à Bamako au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24h sur 24.
Au Zimbabwe, les magasins traditionnels peinent à rivaliser avec les vendeurs informels qui attirent une clientèle soucieuse de payer moins cher. Cette situation met à mal les recettes fiscales du gouvernement alors que les autorités cherchent à formaliser le secteur informel. Pour comprendre l'impact de ce phénomène sur l'économie du pays, voici le reportage de Columbus Mavunga depuis Harare. Le récit est de Lionel Gaïma.
Comme d'autres Zimbabwéens, Edina Katiyo, 47 ans, achète ses provisions à des vendeurs de rue informels à Harare qui se présentent généralement après les heures de travail pour éviter la police.
Ces magasins sont moins chers que les magasins traditionnels et il n'y a pas de file d'attente. Vous choisissez vos articles, vous payez et vous partez.
Les économistes disent que les magasins traditionnels ont du mal à concurrencer les vendeurs de rue parce que la nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZIG, ou or zimbabwéen, est fixée à 26,32 $ par rapport au dollar américain. Mais les cambistes affirment que le taux est d'environ 40 ZIG pour un dollar américain sur le marché noir.
Le taux fixe rend les marchandises chères dans les magasins traditionnels. Les clients finissent donc par venir acheter chez nous, les vendeurs.
Contrairement au marché informel, les magasins traditionnels sont obligés d'accepter la monnaie locale et selon les propriétaires de magasins, ils doivent aller sur le marché noir pour obtenir des dollars américains afin d'acheter plus de marchandises. Les économistes affirment que le gouvernement zimbabwéen perd également d'importantes recettes fiscales du fait des ventes sur les marchés informels.
Il n'y a pas de pays qui se développe sur la base de l'économie informelle. Et vous arrivez à un point où, par l'intermédiaire du gouvernement, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de revenus pour accomplir les tâches du gouvernement, comme l'éducation, la santé et d'autres choses. C'est donc un échec.
La Confédération des détaillants du Zimbabwe a demandé au gouvernement de formaliser le secteur informel et de créer un environnement plus équitable. Pendant ce temps, les autorités affirment que les agences gouvernementales travaillent à l'enregistrement des vendeurs informels.
We want to increase our tax base.
Nous voulons augmenter notre assiette fiscale et nous assurer que le fisc reçoive ce qui lui est dû. Ensuite, nous veillons à contrôler le secteur informel. Nous avons mis en place ce que nous appelons les kiosques. Ces kiosques sont équipés d'ordinateurs portables et d'ordinateurs où les commerçants informels peuvent accéder à notre système et s'enregistrer sans difficulté.
Tous les commerçants informels avec lesquels la VOA s'est entretenue ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un tel enregistrement.
DeepSeek, une start-up chinoise, a secoué la Silicon Valley aux États-Unis avec ses performances impressionnantes et sa rentabilité malgré des coûts de développement minimes. Pour analyser cet exploit, Eric Manirakiza a contacté à Paris en France Rémi Bourgeot, économiste et expert en nouvelles technologies à l'IRIS à Paris.
Alors, je pense que dans l'ensemble, pour le reste du monde, c'est une excellente nouvelle puisque ça montre qu'on peut développer des choses extrêmement intéressantes avec des moyens incroyablement plus limités que ceux de la Silicon Valley. Donc là, on parle de quelques millions de dollars avec les compétences requises, mais on peut vraiment faire des choses extrêmement avancées grâce notamment à cet environnement open source. Et les compétences requises sont tout à fait accessibles aux ingénieurs, aux mathématiciens de très nombreux pays qui sont formés dans ces domaines avec des compétences déjà existantes. Donc ça bouleverse complètement la carte à venir de l'intelligence artificielle. Il y aura toujours des géants, des mastodontes américains, mais le reste du monde peut tout à fait s'investir à faire des choses remarquables dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, en Europe, en France, on avait vu cette entreprise, Mistral AI, qui a développé son propre modèle en suivant une voie différente de DeepSeek, mais aussi dans l'environnement open source à la base, et qui a construit, avec à l'époque, il y a un an environ, une trentaine d'employés seulement, a construit un modèle comparable à celui d'OpenAI. Mais à cette époque, ce n'était pas aussi flagrant qu'avec l'émergence de DeepSeek, et ça n'était pas dans le contexte d'une telle rivalité géopolitique comme celle entre la Chine et les États-Unis. Donc là, c'est aussi de ça qu'on parle évidemment aujourd'hui, et beaucoup d'analystes américains sont stupéfaits, beaucoup de décideurs économiques comme politiques sont très inquiets des répercussions. Mais en termes vraiment plus global, pour les différents pays et dans l'optique d'un progrès technologique qui pourrait aussi profiter au plus grand nombre, malgré les nombreux risques, on voit quand même là vraiment une porte s'ouvrir et de l'oxygène apporté à ce secteur qui semblait de plus en plus restreint à des entreprises géantes qui semaient le reste des acteurs technologiques dans le monde. Et on voit que ce n'est pas le cas.
Alors, sur le plan économique, il y a beaucoup d'avantages, mais sur le plan humain, quelles sont les menaces que pose l'intelligence artificielle dans l'évolution du monde, brièvement?
Il y a plusieurs types de risques. Alors, vous parlez des opportunités économiques, il y a aussi des risques économiques, notamment pour les travailleurs, déjà par le remplacement d'un certain type de travailleurs. Et contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, c'est plus les travailleurs de bureau, évidemment, qui sont les plus directement affectés, avec ceux notamment qui ont les tâches les plus répétitives. On voit par exemple le métier d'avocat, qui, malgré son prestige, est très affecté dès aujourd'hui parce qu'un certain nombre de tâches, d'analyse, d'accès à l'information juridique et légale peut être en partie remplacé par l'IA, bon, avec un besoin évidemment de vérification humaine derrière.
L'économiste Rémi Bourgeot, chercheur à l'IRIS et expert dans les nouvelles technologies. C'est la fin du monde aujourd'hui. Au micro, Nani Totalani. À la réalisation, Georges Léonard Sagno. À la technique, Calvin Fowler. Au revoir et excellente matinée.
Bonjour et bienvenue dans votre journal avec un tour d'horizon des événements les plus marquants en Afrique et dans le reste du monde. À la présentation, Nani Totalani. Ce matin, nous reviendrons sur la RDC où des attaques contre les ambassades ont incité les États-Unis à exhorter leurs ressortissants à quitter le pays. Washington est profondément troublé par l'escalade du conflit en cours dans l'est de la RDC, a affirmé le secrétaire d'État américain lors d'un entretien avec le président rwandais Paul Kagame. Manifestation de soutien au retrait de la CEDEAO au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans notre section magazine avec une interview de l'analyste Paul Oula.
Un ouf de soulèvement pour les populations.
Israël annonce la cessation des relations avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. En économie, le sommet africain de l'énergie qui vise l'électrification de 300 millions de personnes d'ici 2029. Et puis bien sûr, notre incontournable rendez-vous sportif, mais d'abord les nouvelles. Les États-Unis ont appelé hier leurs ressortissants à quitter la République démocratique du Congo après que leur ambassade et plusieurs autres représentations étrangères à Kinshasa ont été prises pour cible par des manifestants. Yakuba Ouedraogo pour les détails.
En raison d'une augmentation de la violence dans la ville de Kinshasa, l'ambassade des États-Unis recommande aux citoyens américains de se mettre à l'abri sur place et partir en sécurité. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade des États-Unis en RDC dans un message publié sur son site Internet, soulignant que les vols commerciaux au départ de l'aéroport Ndjili de Kinshasa sont encore ouverts. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, elle, a qualifié d'inacceptables les attaques visant plusieurs ambassades en RDC. La violence à Kinshasa est profondément troublante, a dénoncé Kaja Kala sur X, appelant à ce que la protection des populations civiles et du personnel diplomatique soit garantie. À Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, accusée par les autorités congolaises de leur avoir déclaré la guerre, du Kenya, de la France, de la Belgique et des États-Unis, critiquées pour leur inaction dans cette crise. Le Kenya a convoqué ce mercredi une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame.
Justement, le président congolais Félix Tshisekedi doit rencontrer aujourd'hui son homologue rwandais Paul Kagame lors d'un sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est organisé par le Kenya. Cette rencontre convoquée par le Kenya doit tenter de dénouer la nouvelle crise dans la région frontalière de l'Est congolais. Pendant ce temps, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent l'aéroport et occupent désormais la quasi-totalité du centre de Ghana et des faubourgs. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu hier avec le président rwandais Paul Kagame. Il a souligné que les États-Unis sont profondément troublés par l'escalade du conflit en cours dans l'est de la RDC, en particulier par la chute de Goma aux mains du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le secrétaire d'État a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la région et a demandé à toutes les parties de respecter les intégrité territoriale souveraine. Marco Rubio a fait savoir que l'objectif primordial des États-Unis était d'instaurer une paix durable qui réponde aux préoccupations en matière de sécurité et jette les bases d'une économie régionale prospère. Le président rwandais Paul Kagame a salué ce matin une conversation productive avec Marco Rubio sur la nécessité d'assurer un cessez-le-feu et de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. Des milliers de personnes ont manifesté mardi au Niger, au Burkina Faso et au Mali pour soutenir le retrait de leur pays de l'organisation ouest-africaine CEDEAO qui devient effectif aujourd'hui. Rosine Munezero nous en dit plus.
À Niamey, plusieurs milliers de manifestants, avec en tête des membres du régime militaire, ont défilé dans le centre-ville. À Ouagadougou, même constat, des milliers de manifestants se sont rassemblés à la place de la Nation, dont le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et des membres du gouvernement. Et enfin au Mali, un rassemblement se tenait dans l'après-midi à Kourou Kanfouga, près de Bamako, un lieu emblématique du patrimoine du pays. Aujourd'hui, 28 janvier 2025, c'est terminé. Que plus personne ne nous parle de la CEDEAO, a déclaré le colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du chef des militaires nigériens au pouvoir, le général Abdourahmane Tchiani. La CEDEAO a tourné le dos aux idéaux de ses pères fondateurs et au panafricanisme, a déclaré à la tribune l'un des organisateurs au Mali, Samou Samuel Kone, ajoutant que l'organisation était devenue une entrave au développement de ses États membres. Ces trois pays vont émettre dès aujourd'hui mercredi leur propre passeport commun sans remettre en cause dans l'immédiat la libre circulation dans la région. Ils ont également annoncé la constitution prochaine d'une armée unifiée de 5000 hommes pour combattre les djihadistes.
Le président Paul Biya a reçu hier mardi à Yaoundé le rapport d'une commission de chercheurs français et camerounais sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Davantage avec Eric Manirakiza.
Au cours d'une cérémonie de restitution du rapport au palais présidentiel de Yaoundé, le président Paul Biya a salué le travail de la commission qualifiant de thérapie collective et soulignant sa portée symbolique pour établir la vérité historique. Monsieur Biya a précisé que l'objectif était de briser un tabou de longue date, permettant ainsi une nouvelle dynamique dans les relations entre la France et le Cameroun. Ceci amènera les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations, considère le président Biya. Ce rapport scientifique fournit une analyse historique et historiographique du rôle de la France au Cameroun sur la période de 1945 à 1971, décrit Karine Ramondi, historienne et coprésidente de la commission mixte franco-camerounaise à l'origine du document. La restitution a eu lieu en présence d'une délégation française amenée par le ministre délégué français chargé de la francophonie, Tani Mohamed Soilihi. Mardi dernier, lors d'une première cérémonie de remise du rapport au palais de l'Élysée à Paris, le président Emmanuel Macron a salué le travail scientifique mené par les chercheurs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël va cesser tout contact avec l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à partir du 30 janvier. Une décision plutôt soutenue par les États-Unis, mais qui pour l'ONU met en danger l'avenir des Palestiniens. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
J'informe par la présente les Nations Unies et le Conseil de sécurité que la législation concernant les activités de l'UNRWA en Israël entrera officiellement en vigueur dans 48 heures le 30 janvier, comme décidé par le Parlement en octobre, a déclaré Danny Danone, représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, devant la presse avant une réunion du Conseil de sécurité sur la question. Danny Danone a d'autre part annoncé qu'Israël mettait fin à toute collaboration, communication et contact avec l'UNRWA et quiconque agissant en son nom, alors que certains ont évoqué la possibilité que des États membres ou d'autres agences servent d'intermédiaire entre l'UNRWA et les autorités israéliennes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y a répondu en regrettant cette décision et demandant que le gouvernement d'Israël la retire. Cette demande unilatérale de cesser les opérations et d'évacuer les installations avec une mise en demeure de moins d'une semaine est manifestement déraisonnable et contradictoire avec les obligations internationales d'Israël, a-t-il écrit dans ce courrier daté de lundi. Il y souligne qu'Israël ne peut exercer de pouvoir de souveraineté sur aucune partie du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Les États-Unis soutiennent la mise en œuvre de la législation israélienne visant l'UNRWA, a déclaré mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU par intérim devant le Conseil de sécurité, décrivant une exagération des impacts de ces lois.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a élargi les exemptions au gel de l'aide étrangère des États-Unis en assurant que des aides d'urgence telles que les médicaments et des abris continueraient d'être financées. Ce gel, ordonné par le président Donald Trump pour réévaluer l'aide étrangère, exclut désormais certaines formes d'aide humanitaire, en plus de l'aide alimentaire d'urgence, répondant aux préoccupations soulevées par les organisations humanitaires. Cependant, le gel affecte des projets humanitaires, notamment en Ukraine. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a annoncé que son pays poursuivra indéfiniment son programme nucléaire, affirmant que 2025 serait une année cruciale pour renforcer ses forces nucléaires.
Voilà pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, notre rendez-vous économique avec Rosine Mounezero.
Au Cameroun, la douane dépasse pour la deuxième année consécutive la barre des 1 000 milliards de francs CFA de recettes, mais ne réussit pas à atteindre les objectifs annuels fixés. Les performances enregistrées entrent dans le cadre de sa stratégie visant à augmenter les recettes non pétrolières dans le budget de l'État, indique l'agence Ecofin. Pour 2025, la Direction générale des douanes vise un objectif d'une augmentation de 49,4 milliards de francs CFA, soit plus de 4,5% par rapport aux prévisions de 2024. Les dirigeants africains et les donateurs se sont engagés mardi à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes supplémentaires en 5 ans, en s'appuyant sur les progrès considérables réalisés dans le domaine de la technologie solaire hors réseau pour atteindre cet objectif. Ils se réunissent depuis lundi en Tanzanie à l'occasion du sommet africain de l'énergie organisé conjointement par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le nouvel exécutif américain entend suspendre le versement de milliards de dollars d'aide publique allant des bourses d'études auprès aux petites entreprises pour s'assurer qu'elles sont conformes aux priorités présidentielles. L'État fédéral a déboursé l'an dernier plus de 3 000 milliards de dollars en matière d'assistance financière, ce qui inclut bourses, prêts, aides d'urgence en cas de catastrophe naturelle, autant de dépenses approuvées par le Congrès.
À présent, découvrons les dernières actualités sportives avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Pour commencer, Lookman Ademola, absent pendant 3 semaines.
Oui, l'Atalanta Bergame sera privé de son buteur nigérien qui s'est blessé au genou droit pendant 3 semaines selon l'annonce faite par le club de Serie A, ajoutant que la durée prévisible de son indisponibilité est d'environ 3 semaines. Lookman Ademola, auteur d'un triplé en finale de la dernière Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, va ainsi manquer le déplacement à Barcelone dans le cadre de la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Il va aussi rater au moins les 3 prochaines journées de championnat avec des matchs contre le Torino à Vérone et contre Cagliari, sans oublier le quart de finale de la Coupe d'Italie le 4 février contre Bologne. Lookman Ademola, 27 ans, a inscrit 14 buts cette saison et réalisé 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'Atalanta, 3e du championnat d'Italie à 7 points du leader Naples, occupe la 7e place au classement de la Ligue des Champions et se qualifiera directement pour les 8e de finale en cas de succès sur le terrain du Barça, déjà qualifié lui pour ses 8e.
Justement, la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se joue ce soir.
Manchester City de la nouvelle recrue, l'Égyptien Omar Marmoush, actuellement inéligible avec City en Ligue des Champions, joue son avenir sur un seul match contre Bruges, un quitte ou double qui met une grosse pression sur Pep Guardiola. Autre ordre européen un peu en difficulté, le Real Madrid assuré de disputer les barrages, mais avec peu de chances d'atteindre le top 8 qui qualifie directement pour les 8e de finale. Adversaire de Brest pour cette dernière journée de la première phase, le Real s'améliore mais n'a pas encore montré son meilleur visage, a estimé son entraîneur Carlo Ancelotti. De son côté, Monaco peut faire pencher sa saison du bon côté à Milan contre l'Inter, où une victoire pourrait lui offrir l'accès direct aux 8e de finale. Les Monégas connaissent cependant un coup dur. Leur meilleur défenseur, l'Ivoirien Wilfried Singo, auteur de 2 buts en Ligue des Champions cette saison, est forfait. Touché aux ischio-jambiers, il sera sur le flanc entre 3 et 5 semaines.
Pour le président de Santos, pour Neymar, le moment est venu de rentrer.
Dans une vidéo sur Instagram, Marcelo Teixeira s'est adressé au meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, 32 ans, 79 buts en 127 matchs, qui a fait ses débuts à Santos en 2009. Le moment est venu pour toi de retourner auprès de ton peuple chez toi dans notre club de cœur. C'est ce qu'a déclaré le président du club brésilien de Santos sans officialiser le retour dans son club formateur de la star brésilienne après la résiliation de son contrat avec le club saoudien d'Al Hilal. Neymar avait rejoint Al Hilal en août 2023 pour quelques 100 millions d'euros par saison, après 6 années sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais sa rupture du ligament croisé du genou gauche lors d'un match avec le Brésil 2 mois après son arrivée à Riyad l'a tenu écarté des terrains pendant 1 an. Neymar n'a disputé que 7 matchs avec Al Hilal pour 1 but et 3 passes décisives.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours avec vous, à présent les dossiers du jour de cette édition. Les combats violents à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait plusieurs morts et blessés. Le CICR s'inquiète de la situation humanitaire, en particulier du nombre croissant de blessés qu'il soutient dans ses structures, comme à l'hôpital CBC Yandosho. Pour comprendre l'ampleur de la crise, notamment la situation humanitaire à Goma, Eddy Issango a contacté à Dakar au Sénégal Éléonore Assoumani, responsable des relations publiques du CICR pour l'Afrique francophone.
La situation humanitaire actuellement à Goma est plutôt dévastatrice. Nous avons des équipes qui travaillent et qui soutiennent l'hôpital CBCA Ndosho Goma, où nous avons des équipes de chirurgiens qui travaillent nuit au jour et qui accueillent des blessés, souvent des blessés par balle, des blessés par explosion. Depuis le début de l'année, donc depuis début janvier, donc ça fait 3 semaines seulement, nous avons reçu plus de 720 blessés dans cet hôpital-là et avec seulement déjà 148 blessés pour la journée d'hier seulement.
Comment faites-vous votre travail aujourd'hui? Est-ce que la sécurité vous permet de surquiller? Il semble qu'il y a beaucoup de corps sur les rues encore. Est-ce que c'est facile pour vous, avec des combats actuels, d'aller apporter les secours ou l'assistance aux personnes?
On a encore, en effet, donc la situation a été très compliquée, notamment les jours passés avec des combats intenses dans le milieu urbain. Nos équipes à l'hôpital ont pu continuer à travailler, les blessés ont continué à effluer. Le reste des équipes qui ne sont pas des équipes médicales, elles, étaient à l'abri dans nos bureaux. Nous avons aussi un abri qui nous protège des tirs. Comme tout le monde, ils sont restés pour les autres à la maison. La situation n'est pas simple. Vous avez mentionné en effet le fait que la ville soit dans les combats. Ça fait que, par exemple, un de nos collègues a reçu un obus dans sa parcelle. Nous-mêmes, encore hier, on a aussi eu quelques tirs très très près de notre bureau. Mais on arrive quand même à continuer à travailler. Depuis quelques heures, il y a une accalmie et on profite de ça pour pouvoir se déplacer. On voit que les gens, petit à petit, sont en train de sortir timidement pour essayer de trouver un peu de nourriture, un petit peu de gaz, un peu d'eau potable pour pouvoir se réapprovisionner en cas. On a vu certaines boutiques trouver petit à petit aussi quelque chose à manger et l'équipe en a aussi profité pour faire de même et pour continuer à donner l'assistance humanitaire qui est nécessaire.
Un des véhicules de la MONUC avait été pris à part par des bombes. C'est justement pour cette raison qu'on demande comment vous faites votre travail. Est-ce que vous êtes sécurisé par la MONUSCO ou par les soldats, je ne sais pas, de l'armée, maintenant que l'armée congolaise n'est pas là?
En tant qu'organisation humanitaire et par notre mandat, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a dans son mandat ce dialogue avec les parties au conflit. Et ça fait partie de notre travail d'être en dialogue constant avec toutes les parties au conflit. C'est ce qui nous permet de continuer à faire notre travail de manière sécurisée.
Qu'en est-il des camps de déplacés parce qu'il y avait déjà des millions de déplacés dans et autour de Goma.
On a en effet entendu qu'il y a eu des déplacements massifs et en effet les gens essaient de prendre abri et de se réfugier là où ils peuvent, là où ils trouvent.
Éléonore Assoumani, responsable des relations publiques du CICR pour l'Afrique francophone.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend effet aujourd'hui après un an de tensions politiques. Le 29 janvier 2024, les trois pays dirigés par des régimes militaires avaient notifié à la CEDEAO leur volonté de retrait immédiat. Mais les textes de l'organisation ouest-africaine imposaient un délai d'un an pour qu'elle soit effective. C'est donc chose faite ce mercredi, les trois pays qui constituent l'AES ayant ignoré l'appel de la CEDEAO à prolonger la période de 6 mois pour tenter de trouver une solution. Yacouba Ouédraogo a joint à Bamako au Mali l'analyste Paul Oula.
un ouf de soulagement pour les populations. Aujourd'hui, quand on essaie de voir, au niveau même de l'AS, on remarque qu'il y a quand même un fonds social qui se lève contre la CEDEAO et différentes sanctions que la CEDEAO a eu à infliger contre ces États. Et aujourd'hui, la sortie des pays membres de l'AS dans la CEDEAO est considérée quand même par une frange partie de la population comme une ouf de soulagement, comme une bouffée d'oxygène. Mais quand on essaie d'analyser aussi d'un autre côté, on remarque que ceux qui sont au niveau de la diaspora sont quand même animés par un sentiment d'inquiétude dans la mesure où beaucoup sont en train d'espérer que dans les jours à venir, que la CEDEAO peut quand même frapper ces étrangers-là. Je pense que c'est un enjeu qui est à l'autre.
Parlant des conséquences de cette sortie, ces trois pays se sont dit prêts à négocier avec la CEDEAO qui avait donné 6 mois pour qu'ils revoient peut-être leur position. À quoi faut-il s'attendre pour la suite?
Alors, moi, je pense que la négociation va se dérouler au niveau seulement de la mobilité des ressortissants de l'AS dans l'espace CEDEAO et vice-versa aussi. Parce que si on essaie de voir l'AS en tant qu'entité géographique, sinon en tant qu'entité politique, elle ne saurait quand même se dépasser de l'espace CEDEAO parce que ces deux espaces sont liés par l'histoire et la géographie aujourd'hui. Il est quand même utopique de penser qu'on puisse occulter cette question de mobilité des citoyens dans ces deux espaces-là. Je pense que l'enjeu majeur va se dérouler autour de la mobilité des citoyens dans ces deux espaces.
Le motif majeur qui a conduit à la prise de pouvoir par les militaires dans les trois pays, Burkina, Mali, Niger, c'est la situation sécuritaire qui n'est pas intéressante. En quoi cette sortie de la CEDEAO pourrait aider dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel?
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des pays membres de l'AS se sont retirés même de la CEDEAO, en dehors même des sanctions qui ont été infligées par la CEDEAO. Le point principal à analyser, c'est que ces trois pays, aujourd'hui, jouissent quand même d'une autonomie de décision, surtout en termes de gestion sécuritaire. Parce que si on essaie de voir avec la mise en place d'une force conjointe aujourd'hui, cela veut dire que ces trois pays sont dotés d'une force conjointe, avec un commandement, avec doté de toutes sortes de capacités opérationnelles pour mettre en état de nuire les groupes armés terroristes. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les pays membres de l'AS ne sont plus tutelle sécuritaire. C'est une opportunité pour eux vraiment de lutter contre l'insécurité.
L'analyste Paul Oula joint à Bamako au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24 heures sur 24.
Au Zimbabwe, les magasins traditionnels peinent à rivaliser avec les vendeurs informels qui attirent une clientèle soucieuse de payer moins cher. Cette situation met à mal les recettes fiscales du gouvernement alors que les autorités cherchent à formaliser le secteur informel. Pour comprendre l'impact de ce phénomène sur l'économie du pays, voici le reportage de Columbus Mavunga depuis Harare. Le récit est de Lionel Gaïma.
Comme d'autres Zimbabwéens, Edina Katiyo, 47 ans, achète ses provisions à des vendeurs de rue informels à Harare qui se présentent généralement après les heures de travail pour éviter la police.
Ces magasins sont moins chers que les magasins traditionnels. Et il n'y a pas de file d'attente. Vous choisissez vos articles, vous payez et vous partez.
Les économistes disent que les magasins traditionnels ont du mal à concurrencer les vendeurs de rue parce que la nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZIG ou or zimbabwéen, est fixée à 26,32 $ par rapport au dollar américain. Mais les cambistes affirment que le taux est d'environ 40 ZIG pour un dollar américain sur le marché noir.
Le taux fixe rend les marchandises chères dans les magasins traditionnels. Les clients finissent donc par venir acheter chez nous, les vendeurs.
Contrairement au marché informel, les magasins traditionnels sont obligés d'accepter la monnaie locale et selon les propriétaires de magasins, ils doivent aller sur le marché noir pour obtenir des dollars américains afin d'acheter plus de marchandises. Les économistes affirment que le gouvernement zimbabwéen perd également d'importantes recettes fiscales du fait des ventes sur les marchés informels.
Il n'y a pas de pays qui se développe sur la base de l'économie informelle. Vous arrivez à un point où, par l'intermédiaire du gouvernement, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de revenus pour accomplir les tâches du gouvernement, comme l'éducation, la santé et d'autres choses. C'est donc un échec.
La Confédération des détaillants du Zimbabwe a demandé au gouvernement de formaliser le secteur informel et de créer un environnement plus équitable. Pendant ce temps, les autorités affirment que les agences gouvernementales travaillent à l'enregistrement des vendeurs informels.
Nous voulons augmenter notre assiette fiscale et nous assurer que le fisc reçoive ce qui lui est dû. Ensuite, nous veillons à contrôler le secteur informel. Nous avons mis en place ce que nous appelons les kiosques. Ces kiosques sont équipés d'ordinateurs portables et d'ordinateurs où les commerçants informels peuvent accéder à notre système et s'enregistrer sans difficulté.
Tous les commerçants informels avec lesquels la VOA s'est entretenue ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un tel enregistrement.
DeepSeek, une start-up chinoise, a secoué la Silicon Valley aux États-Unis avec ses performances impressionnantes et sa rentabilité malgré des coûts de développement minimes. Pour analyser cet exploit, Eric Manirakiza a contacté à Paris en France Rémi Bourgeot, économiste et expert en nouvelles technologies à l'IRIS à Paris.
Alors, je pense que dans l'ensemble, pour le reste du monde, c'est une excellente nouvelle puisque ça montre qu'on peut développer des choses extrêmement intéressantes avec des moyens incroyablement plus limités que ceux de la Silicon Valley. Donc là, on parle de quelques millions de dollars avec les compétences requises, mais on peut vraiment faire des choses extrêmement avancées grâce notamment à cet environnement open source. Et les compétences requises sont tout à fait accessibles aux ingénieurs, aux mathématiciens de très nombreux pays qui sont formés dans ces domaines avec des compétences déjà existantes. Donc ça bouleverse complètement la carte à venir de l'intelligence artificielle. Il y aura toujours des géants, des mastodontes américains, mais le reste du monde peut tout à fait s'investir à faire des choses remarquables dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, en Europe, en France, on avait vu cette entreprise, Mistral AI, qui a développé son propre modèle en suivant une voie différente de DeepSeek, mais aussi dans l'environnement open source à la base, et qui a construit, avec, à l'époque, il y a un an environ, une trentaine d'employés seulement, a construit un modèle comparable à celui d'OpenAI. Mais à cette époque, ça n'était pas aussi flagrant qu'avec l'émergence de DeepSeek et ça n'était pas dans le contexte d'une telle rivalité géopolitique comme celle entre la Chine et les États-Unis. Donc là, c'est aussi de ça qu'on parle évidemment aujourd'hui et beaucoup d'analystes américains sont stupéfaits, beaucoup de décideurs économiques comme politiques sont très inquiets des répercussions. Mais en termes vraiment plus global pour les différents pays et dans l'optique d'un progrès technologique qui pourrait aussi profiter au plus grand nombre, malgré les nombreux risques, on voit quand même là vraiment une porte s'ouvrir et de l'oxygène apporté à ce secteur qui semblait de plus en plus restreint à des entreprises géantes qui semaient le reste des acteurs technologiques dans le monde. Et on voit que ce n'est pas le cas.
Alors, sur le plan économique, il y a beaucoup d'avantages, mais sur le plan humain, quelles sont les menaces que pose l'intelligence artificielle dans l'évolution du monde, brièvement?
Il y a plusieurs types de risques. Alors, vous parlez des opportunités économiques, il y a aussi des risques économiques, notamment pour les travailleurs, déjà par le remplacement d'un certain type de travailleurs. Et contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, c'est plus les travailleurs de bureau, évidemment, qui sont les plus directement affectés, avec ceux notamment qui ont les tâches les plus répétitives. On voit par exemple le métier d'avocat, qui, malgré son prestige, est très affecté dès aujourd'hui parce qu'un certain nombre de tâches d'analyse, d'accès à l'information juridique et légale peut être en partie remplacée par l'IA, bon, avec un besoin évidemment de vérification humaine derrière.
L'économiste Rémi Bourgeot, chercheur à l'IRIS et expert dans les nouvelles technologies. C'est la fin du monde aujourd'hui. Au micro, Nani Totalani. À la réalisation, Georges Léonard Sagnot. À la technique, Kelvin Fowler.